VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du mercredi 20 avril 2016. Au sommaire ce soir.
République démocratique du Congo, policiers et partisans de l'opposition se sont affrontés à Lubumbashi, dans l'ex-province du Katanga.
Au Tchad, fin de la grève dans le secteur public.
Toujours au Tchad, la conférence épiscopale invite à l'apaisement alors que les résultats de la présidentielle se font attendre.
Nous demandons instamment aux acteurs tenants du pouvoir et opposants de tout mettre en œuvre pour que les intérêts supérieurs de la nation soient préservés.
En magazine, retour sur l'état du transport aérien en Afrique.
Nous parlerons aussi des efforts de Washington pour calmer les craintes de ses partenaires du Golfe, en particulier l'Arabie Saoudite.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
En République démocratique du Congo, la police a dispersé ce mercredi des manifestants rassemblés aux abords du siège provincial de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, l'UNAFEC, pour protester contre l'intervention des forces de l'ordre hier dans ce même bâtiment. Selon la presse locale, la situation est très tendue. Notre correspondant Narval Nabila nous en dit plus.
Mardi, entre 19h et 20h, le directoire de l'UNAFEC Kiongwa-Kumanza, situé dans la commune de la Kenya, est investi par la police qui retire l'effigie de Moïse Katumbi de Kiongwa-Kumanza, les drapeaux de l'UNAFEC qui flottaient. Après leur départ, les militants en colère manifestent et brûlent le pneu, et cela pendant plusieurs heures dans la soirée. Face à cette situation, la police y retourne, avec plusieurs jeeps appuyés par les militaires FRDC, selon les témoignages. La police investit le directoire et disperse les manifestants. En rappel, une heure avant Lubumbashi, la même opération s'est déroulée roulé à Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, au directeur de l'UNAFEC Kinshasa, et cela sans incident majeur. Mercredi matin, à Lubumbashi, les manifestations reprennent des plus belles. Les pneus y sont brûlés. La police disperse les manifestants avec les grenades lacrymogènes. Toutes les activités de la commune sont paralysées. C'est dans la mi-journée que tout est rentré à la normale. À la base, crise de légitimité du parti. Lubumbashi, Narval Mabila, VO Afrique.
À RDC toujours, trois militaires congolais sont décédés des suites de leurs blessures après une attaque de rebelles Hutu rwandais de FDLR dans le territoire de Rutshuru, dans l'est du pays.
La République démocratique du Congo, qui occupe la 152e place sur 180 dans le classement mondial 2016 de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières. Le pays a reculé de 3 places en une année, note cette organisation de défense de la presse. Reporters sans frontières s'est inquiété aujourd'hui dans un communiqué de la brusque dégradation de la situation de la liberté de la presse en RDC. Le ministre de la Communication et des Médias, Lambert Mende, a indiqué à l'AFP que les crimes contre les journalistes ne sont ni tolérés ni impunis. Nous reviendrons sur l'état de la liberté de la presse dans le monde en magazine.
Alors que les résultats de la présidentielle du 10 avril se font attendre au Tchad, les évêques catholiques tchadiens craignent des violences post-électorales. Réunis à N'Djamena, ils appellent le pouvoir et l'opposition à l'apaisement. Un extrait de leur déclaration lu par le président de la conférence épiscopal du Tchad, Mgr Jean-Claude Bouchard.
Au moment où les citoyens de notre pays attendent avec impatience les résultats du scrutin du premier tour des élections présidentielles, nous, évêques du Tchad, constatons avec inquiétude le climat de grande tension qui s'est installé dans notre pays. Aussi, nous demandons instamment aux acteurs tenants du pouvoir et opposants de tout mettre en œuvre pour que les intérêts supérieurs de la nation soient préservés et que la paix et la stabilité du Tchad restent leur objectif ultime. Cet appel s'adressait aussi à tous les hommes et à toutes les femmes de bonne volonté, que nous invitions à faire montre de responsabilité, de sagesse, de respect de l'autre et de nos textes fondamentaux. Nous devons à tout prix préserver l'unité et la paix en évitant toute violence.
Mgr Jean-Claude Bouchard, président de la conférence épiscopale du Tchad.
Crise au Burundi, l'envoyé spécial du président américain dans la région des Grands Lacs insiste sur le dialogue inclusif avec tous les protagonistes, même ceux que le gouvernement qualifie de putschistes. Thomas Perriello a indiqué que les États-Unis attendent des résultats concrets le plus rapidement possible pour résorber la crise qui dure depuis bientôt un an. Reportage à Bujumbura de notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Avant de se diriger vers la capitale économique tanzanienne, Dar es Salaam, Thomas Perriello, envoyé spécial du président américain dans la région des Grands Lacs, a appelé les autorités de Bujumbura à la relance du dialogue inclusif sous la médiation de la communauté est-africaine pour des conclusions rapides. La communauté internationale, a indiqué Thomas Perriello, a besoin d'un processus qui réaffirme l'accord de paix et de réconciliation d'Arusha et non un accord qui redéfinit l'accord de paix d'Arusha. Il a affirmé que les États-Unis et le reste du monde n'ont pas besoin d'un accord qui aboutirait à la création d'un quartier ou d'une cité à Arusha, ici à Bujumbura, au lieu de se concentrer sur la croissance économique du pays. L'émissaire spécial des États-Unis dans la région des Grands Lacs a déclaré que si le gouvernement burundais trace des lignes en affirmant que les putschistes ne sont pas concernés ou que toute personne avec laquelle le gouvernement burundais est en désaccord devient automatiquement putschiste, ce comportement n'est pas celui qui favorise le dialogue inclusif. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En Zambie, deux personnes ont été brûlées vives lundi à Kanyama, un bidonville de Lusaka. 62 échoppes ont été détruites et des maisons caillassées. Des violences qui visaient essentiellement des commerçants rwandais soupçonnés de crimes rituels. 7 cadavres ont été retrouvés, amputés de plusieurs organes.
Selon Médecins Sans Frontières, 5 millions de personnes n'ont toujours pas accès au traitement contre le VIH-Sida en Afrique centrale et de l'Ouest. À peine 24% des séropositifs ont accès aux antirétroviraux dans ces régions.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Barack Obama a entamé sa brève visite en Arabie Saoudite par un tête-à-tête à Riyad avec le roi Salman. Il doit prendre part à un sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe. Son séjour d'un peu plus de 24 heures intervient sur fond de tension dans les relations américano-saoudiennes. Précision, Lionel Gaïma.
À sa descente d'Air Force One à l'aéroport international Roi Khalid, le chef de l'exécutif américain a été accueilli par un officiel de moindre rang, le prince Faisal Ben Bandar Al Saoud, gouverneur de Riyad. Son arrivée n'a pas été retransmise en direct par la télévision nationale saoudienne. C'est un signal sans équivoque de Riyad. Parmi les griefs de l'Arabie saoudite au président américain, il y a l'accord nucléaire conclu avec l'Iran, sa grande rivale, mais aussi l'approche américaine de la crise en Syrie. C'est au palais Erga de Riyad que le roi Salman a accueilli le président Obama. Les deux hommes ont échangé des salam alek d'usage avant leurs entretiens à huis clos. Parmi les officiels accompagnant le président Obama, le secrétaire de la Défense Ash Carter, qui a exhorté les pays du Golfe à apporter un plus grand soutien économique et politique à l'Irak.
À noter que l'arrivée de M. Obama n'a pas été retransmise, comme nous l'avons dit, en direct à la télé nationale, contrairement à ce qui fut le cas lors de sa dernière visite en janvier 2015.
Les rebelles chiites et leurs alliés au Yémen s'apprêtent à se joindre au pourparler de paix qui était censé s'ouvrir lundi sous l'égide de l'ONU au Koweït, mais qu'ils ont boudé jusqu'ici. La délégation des rebelles et de leurs alliés, des partisans de l'ancien président Ali Abdallah Saleh, a quitté la capitale yéménite mercredi, aujourd'hui donc, en fin d'après-midi. C'est ce qu'a appris l'AFP qui précise que les négociations pourraient commencer demain après-midi.
Un chiffre qui préoccupe en Inde, quelque 330 millions de personnes souffrent de la sécheresse dans ce pays. Certaines régions sont en proie à de graves pénuries d'eau qui occasionnent de lourdes pertes de récoltes aux agriculteurs, selon New Delhi. Jacques Aristide.
Des températures jamais enregistrées en 100 ans dans la Grande Péninsule. Le gouvernement est très inquiet car c'est plus d'un quart de la population indienne répartie sur 10 États qui en est touchée. La chaleur tue plusieurs centaines de personnes parmi les plus pauvres chaque année en Inde. Mais cette année, les températures ont augmenté plus tôt que d'habitude. Les autorités craignent un bilan encore plus élevé. La présente sécheresse intervient après 2 années de faible mousson. Le gouvernement traîné devant la Cour suprême a été sommé de verser des financements aux régions touchées par ce manque de pluie qui a entraîné par endroits le rationnement de l'eau potable. D'ailleurs, dans le Bengale occidental, des mouvements de protestation ont éclaté à cause des pénuries d'eau, tandis que dans l'Orissa, les écoles sont fermées jusqu'à la semaine prochaine. Pas d'amélioration en vue, d'autant que les services météo indiens prévoient l'arrivée dans les prochains jours d'une vague de chaleur dans certains des États affectés.
Nouveau bilan dans l'attentat des talibans à Kaboul hier. 64 personnes ont été tuées et près de 350 autres blessées. C'est l'une des attaques les plus meurtrières à frapper la capitale afghane depuis la chute du régime islamiste en 2001.
La présidente de gauche du Brésil, Dilma Rousseff, se rend demain jeudi à New York pour signer un traité sur le changement climatique à l'ONU, laissant les rênes du pays à son vice-président Michel Temer, qu'elle accuse pourtant de conspirer pour la destituer. Les médias brésiliens spéculaient ce mercredi sur la possibilité que Mme Rousseff profite de l'occasion pour dénoncer à l'étranger qu'elle est victime d'un putsch au Parlement brésilien. La procédure de destitution approuvée par la Chambre basse fera l'objet d'un vote final au Sénat brésilien. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec John Lindon.
Au Cameroun, le consortium marocain conduit par l'Office national de l'eau potable, ONEP, pourrait perdre son contrat. La presse locale révèle en effet que le président Paul Biya en personne ne souhaite pas que ce contrat soit renouvelé, ceci dans un contexte de forte pénurie d'eau potable sur l'ensemble du territoire. Pour la troisième année consécutive, la Banque africaine de développement, la BAD, est répertoriée parmi les 10 organisations les plus ouvertes au monde, selon le classement 2015 des organisations de développement publié par le think tank britannique Publish What You Fund, publiez ce que vous financez. D'après le Financial Afrique, ce rapport évalue la transparence des 46 organisations de développement, notamment la Banque mondiale, le PNUD ou encore la BAD. La Commission européenne est à nouveau passée à l'offensive aujourd'hui contre Google en accusant d'abus de position dominante le géant américain avec son système d'exploitation Android qui représente plus de 80% du marché mondial des smartphones. Par son comportement, Google prive les consommateurs d'un choix plus large d'applications et de services mobiles et l'entreprise freine l'innovation émanant des autres acteurs en violation des règles de concurrence de l'Union européenne, a expliqué la commissaire européenne chargée de la politique de concurrence. Google a aussitôt rejeté les accusations de la Commission.
La Minute Éco, merci John.
L'actualité sportive ce soir, c'est avec Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir Chérubin.
Ligue africaine des champions, huitième de finale retour. Alors, c'est un coup de tonnerre, élimination du tenant du titre.
Eh oui, le tout-puissant Mazembe ne défendra pas son trophée. Le tenant congolais a été éliminé chez lui à Lubumbashi en concédant le match nul face au WAC de Casablanca. Un but partout. On se souvient que le WAC Casablanca l'avait emporté, Chérubin, 2-0 à l'aller au Maroc. Ashanté a trouvé de la tête Salif Koulibaly qui a catapulté le ballon au fond des filets de Laroubi. C'était à la 28e minute de jeu et les Corbeaux pensaient à aller vers le chemin de la qualification. Mais finalement, après moult tentatives, ce n'est pas rentré et le coup de tonnerre est venu à la 90e minute, plus 3 minutes d'arrêt de jeu avec l'égalisation des Marocains. Et à Kamalondo, c'était un silence de mort, évidemment, ce mercredi. On le répète, un partout, score final, élimination du tout-puissant Mazembe. On va parler également de l'ASEC Mimosa qui est allé faire match nul face à Al Ahly de Tripoli. Un but partout, mais on se souvient qu'à l'aller, les académiciens l'avaient emporté 2-0 à Abidjan. Ils sont donc qualifiés. Autre match à suivre ce mercredi soir, Al Ahly d'Égypte contre les Young Africans de Tanzanie. Le Mamelodi Sundowns qui accueille en Afrique du Sud l'AS Vita Club. On se souvient que les Congolais l'avaient emporté 1-0 à l'aller au stade Tata Raphaël. Et puis le Sahel, l'entente sportive du Sahel de Tunisie. Tunisie face à Enimba du Nigeria.
Autre compétition, la Coupe de la Confédération.
Et oui, après son carton à l'aller, le FUS de Rabat, facile, hein, 7-0 contre le SC Villa. Il se déplace en Ouganda. Medeama du Ghana contre Al Ahly Shendi du Soudan. MPP d'Égypte contre le CF Mounana, le club gabonais. Enfin, le CAC de Marrakech face au MC Oran, le club algérien.
Bonne nouvelle, Nicolas, pour Pierre-Emerick Aubameyang.
Incertain car blessé à un orteil lors d'un choc à l'entraînement, Pierre-Emerick Aubameyang devrait finalement pouvoir tenir sa place ce soir en demi-finale de Coupe d'Allemagne qui opposera son club au Hertha Berlin.
Et on a du temps pour les résultats en basket.
Et oui, Atlanta qui bat Boston dans la conférence Est 89-72. Atlanta qui mène 2-0. Et puis San Antonio qui bat Memphis 94-68. Là encore, San Antonio mène 2-0.
Nous sommes bien sûr dans la phase finale du championnat. Merci Nicolas Pino.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Ravi d'être en votre compagnie ce mercredi, Morgane Guériac et Chérubel Orsil. Place au dossier du jour, première escale, le Tchad.
L'Union des syndicats du Tchad suspend la grève sèche qu'elle avait lancée pour exiger la libération de 5 leaders de la société civile arrêtés avant la présidentielle du 10 avril. Accusés de préparer un attroupement non autorisé, ces activistes ont été condamnés à 4 mois chacun avec sursis. Le point avec notre correspondant au Tchad, André Konmadjingar.
La suspension de ce débrayage est un ouf de soulagement des patients, des centres de santé et des hôpitaux publics, car cette grève pénalise beaucoup plus les personnes démunies qui n'ont pas la capacité de se faire soigner dans les cliniques privées. Montanan Dinaromtan, secrétaire général du Syndicat national des travailleurs des affaires sociales du Tchad, dit en être conscient, mais rejette la responsabilité à l'État tchadien.
Quand on va jusqu'à la grève, c'est l'extrémité qui nous reste. Ce n'est pas de gaieté de cœur que nous partons en grève. Mais nous-mêmes, nous faisons partie du bas peuple pendant cette période de grève. Moi qui vous parle là, si quelque chose m'arrive pendant cette période, vous pensez que je serai différent des autres compatriotes qui sont là? Nous faisons partie du peuple, nous vivons avec le peuple, nous subissons en même temps avec le peuple. Donc si nous sommes aussi pénalisés, c'est l'État qui est responsable de cette situation. S'il y a un problème, discutons pour trouver un consensus. C'est notre souhait. Il n'y a pas de raison d'aggraver les choses là où il ne faut pas le faire. Quand les gens font des sourdes oreilles, mais nous, pour se faire entendre, on est obligé de faire certaines actions.
Pour le secrétaire général adjoint de l'Union des syndicats du Tchad, Gounou Vaïma Gamfaré, la grève peut être reprise à tout moment, car les 5 leaders des différentes coalitions de la société civile qui s'opposent au 5e mandat du président Déby sont toujours sous la menace du pouvoir. Toutefois, il espère que la cour d'appel va purement et simplement annuler la peine qu'écopent ses compagnons de lutte, car l'appel a été interjeté par les avocats de la défense, Gounou Vaïma Gamfaré.
Cette condamnation ne nous plaît pas tellement. Ils sont toujours sous la menace et nous avons décidé de suspendre simplement la grève au lieu de la lever. Ça veut dire que immédiatement, quand il y a quelque chose, nous pouvons aller en grève, sans préavis. Si nous la levons, ça veut dire que si nous voulons encore repartir en grève, nous pouvons forcément déposer un préavis de 6 jours francs avant d'entrer en grève. Donc la suspension nous laisse la latitude d'aller à la seconde près en grève. Nos avocats ont fait appel et nous attendons le résultat de l'appel avant de voir s'il faut lever la grève. Mais nous pensons quand même que même si le droit était bafoué au niveau du premier juge, je crois que jusqu'en appel quand même, le droit sera dit.
André Kodumadjingar, Ndiamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique au Tchad, 24 heures sur 24, à N'Djamena, en direct sur 93.1 FM et sur FM Liberté, aussi à N'Djamena.
Le transport aérien en Afrique tente de sortir d'une zone de turbulence. Le Sénégal a ainsi annoncé qu'il injectera 40 milliards de francs CFA dans Air Sénégal SA, qui remplace la défunte Sénégal Airlines. Le Congo-Brazzaville, le Cameroun, le Maroc ou encore la Côte d'Ivoire ont tous à cœur des dossiers liés au transport aérien ou à leur compagnie nationale. Occasion pour VOA Afrique de jeter un regard sur ce secteur. John Lendon a joint à Brazzaville Nicolas Négos, responsable des relations publiques de la compagnie aérienne Équerre.
L'an dernier, Équerre, la compagnie aérienne nationale de la République du Congo, a présidé l'AFRA. L'AFRA, c'est l'Association des compagnies aériennes d'Afrique. Et à ce titre, nous avons accueilli à Brazzaville la 46e Assemblée générale de l'AFRA. Et nous avons parlé de la libéralisation du transport aérien en Afrique. À partir du moment où toutes les compagnies sont d'accord, où tous les pays africains sont d'accord pour libéraliser et se battre pour qu'on puisse circuler librement en Afrique, je pense que ce sera une nette amélioration et que le passager sera gagnant.
Comment expliquez-vous le fait qu'aujourd'hui il soit toujours si difficile et si cher de voyager par voie aérienne en Afrique?
Il est toujours malheureusement compliqué, effectivement cher de voyager par voie aérienne en Afrique parce que nous avons déjà des coûts qui sont plus élevés qu'en Occident. Que ce soit pour le carburant ou les taxes aéroportuaires, c'est toujours plus difficile pour les compagnies aériennes. Et c'est un véritable combat que l'AFRA mène justement pour essayer de faire en sorte d'améliorer la situation. Ce qui fait problème, c'est toujours cette hostilité qu'ont les pays africains à ouvrir leur espace. Mais nous sommes confiants et nous avons le soutien de l'Union africaine que dès 2017, il sera beaucoup plus facile de circuler en Afrique et que les passagers n'auront pas besoin d'aller à l'extérieur pour pouvoir se rendre dans les capitales africaines.
Alors, un autre souci, c'est celui de la sécurité des appareils. C'est vrai que l'Afrique n'a pas le monopole dans le domaine, mais est-ce que les avions africains sont sûrs?
Oui, si vous regardez les statistiques de 2015, Il y a eu beaucoup moins d'accidents en Afrique que dans d'autres parties du monde. Il faudrait arrêter de stigmatiser et de mettre en doute la sécurité aérienne en Afrique parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont menés par les agences nationales de l'aviation civile dans les pays d'Afrique, justement pour faire en sorte que les passagers voyagent dans des conditions sûres. En prenant l'exemple sur notre compagnie Equair, nous faisons tout ce qui rend possible pour garantir la sécurité des passagers, comme toutes les compagnies le font généralement. Et lorsqu'il y a des retards de vol ou lorsqu'il y a des annulations, c'est parce que la sécurité primante, nous décidons de faire le choix. Ayez confiance en les compagnies aériennes, ayez confiance en le travail qui est mené par les agences nationales d'aviation civile et voyager avec des compagnies panafricaines. Il y a des grandes compagnies qui sont sûres et qui sont reconnues au niveau international. Il y a des petites compagnies qui montent et bien il faut les encourager et voyager panafricain.
Nicolas Négos de la compagnie Equair, joint à Brazzaville.
Washington Forum cette semaine, montée de l'islamophobie dans le monde, focus sur les récentes déclarations aux États-Unis et en Europe. Le terrorisme, première cause de ce phénomène. Comment réagit la communauté musulmane en Afrique et ailleurs? Enjeux électoraux, amalgame, le monde se dirige-t-il vers une nouvelle guerre des religions? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et retrouvez Tatiana Mosso dans Washington Forum. C'est ce jeudi à 19h temps universel. Obama en Arabie Saoudite sur fond de dissensions. Les décisions de son administration, du refus d'intervenir en Syrie contre le régime de Bachar al-Assad, aux négociations sur le nucléaire avec l'Iran, grand rival chiite, ont ulcéré les monarchies sunnites de la région. Le patron de la Maison-Blanche a-t-il encore des marges de manœuvre pour rassurer ses partenaires du Golfe à quelques mois de la fin de son mandat? Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint Sami Aoun, professeur de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke au Canada.
Sachant un peu le caractère du président Obama et les différentes facettes de sa doctrine et de son approche géopolitique, particulièrement pour le monde musulman ou plus particulièrement pour le Moyen-Orient, il n'y a pas vraiment un changement à s'attendre. Il est quand même, va continuer jusqu'à la fin de son mandat de garder à peu près les mêmes fondements de sa politique. Disons, par exemple, que la gestion d'arrière-plan sans incursion militaire au sens territorial et aussi à faire un certain contrepoids, une certaine polarisation qu'il pourrait lui-même gérer selon les intérêts des Américains entre l'Iran et l'Arabie Saoudite et d'autres puissances dans la région, qu'ils soient alliés, membres de l'OTAN comme la Turquie ou même l'Égypte.
L'accueil du président Obama à Riyad a prouvé qu'il y a un problème. Est-ce que ces pays de la région qui sentent l'Iran comme un véritable danger à leur sécurité, à leur régime, quelle est cette marge de manœuvre qui reste au président réellement Obama?
Certainement, il peut donner des garanties. Prenons la question du Yémen. On a vu que l'initiative saoudienne a été presque autonome, avec concertation avec les Américains, mais sans un appui inconditionnel qui est venu de Washington. Alors, sur ce point, même les Saoudiens, de crainte de s'enliser, ils pourraient écouter les avis de M. Obama, par exemple sur la participation possible des rebelles aussi dans un gouvernement d'unité nationale ou de réconciliation. Mais aussi, M. Obama est obligé de les écouter sur l'influence iranienne qui n'est pas justifiée vraiment dans cette région de la mer Rouge, qui est une région plutôt entourée par des puissances arabes et par des intérêts plutôt arabes.
Est-ce que les États-Unis peuvent toujours se maintenir comme le véritable partenaire incontournable pour ces pays aujourd'hui qui semblent avoir moins de confiance en l'administration Obama?
Il y a lieu de ne pas avoir confiance et être sceptique à l'égard de l'administration Obama. Alors la critique est de mise. Pour ce moment-ci, il est très difficile de prédire quelle serait la solution.
Sami Aoun, professeur de sciences politiques à l'Université de Sherbrooke au Canada.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. Notez notre nouvelle adresse voafrique.com. tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
La liberté de la presse connaît une profonde dégradation à travers le monde. C'est le constat qu'établit Reporters sans frontières, RSF, dans son rapport 2016 publié ce mercredi. Quelle est la situation de l'Afrique et quelles sont les conséquences de ce recul? Nani Talani a recueilli les explications de Constance Deloire, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières à Paris.
Il y a, on le remarque, une certaine paranoïa, une certaine peur de beaucoup de dirigeants dans le monde de voir la parole journalistique, l'expression d'une opinion leur échapper. Il y a une volonté de reprise en main de beaucoup de médias, évidemment privés, indépendants, freelance, d'opposition, dans des pays dans lesquels le régime politique le laissait attendre, mais également dans des pays pour lesquels c'est plus surprenant, des pays qui étaient pourtant assez bien classés ou considérés comme des démocraties, qui sont gagnés par cette crainte.
Est-ce que la dégradation de la liberté de la presse pourrait entraîner d'autres conséquences?
Oui, bien sûr. Des citoyens mal informés, ce sont des citoyens qui peuvent, dans leur choix, qu'il s'agisse au moment de voter, qu'il s'agisse au moment de prendre position dans un début de conflit militaire, faire des choix qui ne sont pas éclairés par la vérité, par le travail d'information. Donc c'est évident qu'un pays dans lequel la situation de la presse se dégrade, ce sont des régimes politiques et citoyens qui sont fragilisés, bien sûr.
Y a-t-il des pays africains où la liberté de la presse s'est vraiment dégradée?
Oui, il y a notamment le Sud-Soudan qui a perdu 15 places dans le classement entre 2015 et 2016. C'est un pays qui est en guerre civile quasiment depuis sa création en 2011. C'est le plus jeune pays d'Afrique. 7 journalistes ont été tués au Sud-Soudan en 2015. C'est une situation dramatique. Le Burundi a également beaucoup reculé de 11 places, ainsi que le Togo qui a reculé de 8 places. Ce sont les 3 plus fortes baisses du continent.
Il est vrai que le tableau est plutôt sombre, mais est-ce qu'il y a des pays africains qui ont réalisé des progrès en matière de liberté de la presse?
Oui, il y a des pays qui sont bien classés parmi les pays africains. Le premier d'entre eux, c'est la Namibie, cette année, et qui avait déjà de bons scores depuis un bon moment. Ce pays fait figure de modèle. Le Ghana est 22e et le Cap-Vert est 36e. Donc c'est le trio de tête. En performance absolue, la Somalie a également progressé dans les scores, aux notes qu'on lui a attribuées, même si son niveau reste très bas. Ça reste un pays où des journalistes se font tuer également.
Quelles actions sont essentielles pour éviter la descente en enfer de la liberté de la presse?
Alors il y a déjà les actions, bien sûr, que nous menons, les actions d'information, c'est ce que nous faisons ensemble aujourd'hui et puis toute l'année, documenter, répertorier et puis évidemment plaider auprès des régimes, quels qu'ils soient, pour qu'ils travaillent déjà l'aspect législatif, pour que les journalistes soient protégés.
On écoutait Constance Deloire, responsable du bureau Afrique de Reporters sans frontières à Paris.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme International Music, Comedy et Country Music. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écoutez de la bonne musique et partagez vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140. Vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
C'est la fin de cette édition. Georges Léonard Sagnot a assuré la mise en onde avec l'assistance technique de Joe Gill à la console. À la présentation, Morgane Guériac et Chérubin Gaby Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM Radio Wenpanga,
Wayeguya, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.